I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition de la mode et du luxe. Outils tech, conseils de marque engagés ou en transformation, partage d'expertise, ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider l'industrie vers un développement durable. Je vous donne rendez-vous tous les 10 jours sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous abonner à la chaîne présente le double avantage d'être notifié à la sortie d'un épisode et de nous soutenir en un seul clic. Nous avons également une newsletter business mensuelle à laquelle vous pouvez vous inscrire sur thegoodgoods.fr. Bonne écoute! Faire soi-même, c'est déjà faire beaucoup pour la planète. Voici le slogan qui résume la politique audacieuse d'une enseigne de textile et de mercerie historique qui ne cesse de se développer dans le bon sens. Depuis 40 ans, Mondial Tissu est passé du déstockage de fins de collection invendues à une mission de sensibilisation citoyenne, invitant à créer pour s'épanouir et moins consommer, générant à la fois le matériel nécessaire à la couture et des services pour apprendre. 1200 salariés, 115 magasins et une forte présence digitale, dans sa croissance, elle n'oublie pas sa responsabilité et le rôle social des arts créatifs et aménage pour cela des espaces dans ses magasins où sont organisés des ateliers, des trocs, des sessions pédagogiques autour des matières et une consommation plus raisonnée. La couture devient un moyen de vivre la mode autrement. On en parle avec Marine Nagel Lacroix, directrice marketing chez Mondial Tissu, dans le cadre exceptionnel des Fashion Green Days organisés cette année à Lyon. Bonne écoute! Bonjour Marine.
Bonjour Victoire.
On inverse l'exercice aujourd'hui, c'est moi qui me déplace et c'est vous qui êtes à domicile.
Tout à fait, exactement. Ouais, l'entreprise Mondial Tissu est lyonnaise, effectivement.
Alors, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de contexte? On est à l'Embarcadère, c'est dans la ville de Lyon même.
Oui, et sur donc, les quais de Saône.
Exactement, au bord de l'eau et sous le soleil, dans le cadre des Fashion Green Days, donc événement de la mode éco-conçue et circulaire organisé par le Fashion Green Hub. Et avec des retrouvailles en physique après de longs mois
tout à fait.
De présence digitale. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre rapport à la région? Est-ce que vous êtes originaire d'ici?
Alors, je vais répondre au nom de l'entreprise. Mondial Tissu, effectivement, est originaire de la région Rhône-Alpes, avec la création de l'entreprise en 1981, exactement, et la création d'un premier magasin à Villeurbanne, donc en banlieue lyonnaise.
Et donc, au départ, c'était une mercerie, un distributeur de tissus?
Alors c'était un déstockage, en fait, un grand entrepôt de déstockage fin de collection d'invendus qui était mis à disposition des clientes, donc dans un grand espace où les clientes se servaient elles-mêmes. Elles avaient des ciseaux à disposition et coupaient elles-mêmes leurs tissus.
On va parler de l'entreprise en détail un tout petit peu après. Est-ce que avant ça, vous pouvez me parler de votre sensibilité personnelle au textile et peut-être de votre parcours qui vous a amené à travailler dans cette entreprise?
Alors, moi, j'ai toujours voulu travailler dans la couture. C'est une passion que j'ai depuis assez petite. J'ai appris la couture au collège. J'ai eu la chance d'avoir des cours de couture dans le collège où j'étais. Et vraiment, c'est devenu une passion tout de suite. Et j'ai voulu en faire mon métier. Donc, j'ai fait des études finalement généralistes d'école de commerce, mais toujours orientée vers la couture. Et j'ai essayé de travailler... très majoritairement dans des entreprises textiles. Avant celle-ci, donc j'ai travaillé chez Cotelac, à côté d'Ambérieu, donc toujours dans la région, et précédemment en Espagne. J'ai passé 10 ans à Barcelone. J'ai travaillé pour Levis, Pimki, et ensuite des enseignes de poussettes, en fait, le leader espagnol des poussettes, mais toujours sur la partie textile, et dans la décoration chez AkzoNobel.
C'est la première année, je crois, que Mondial Tissu est partenaire de Fashion Green Days. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est venue cette opportunité et qu'est-ce que vous y avez vu?
Alors pour nous, c'est une opportunité de prise de parole par rapport à un engagement responsable de plus en plus présent, de plus en plus fort dans l'entreprise. Et grâce à notre agence RP à Paris, on a eu donc le contact avec les Fashion Green Days. Et donc on a sauté sur l'occasion pour pouvoir être présent et mettre en avant donc toutes les pratiques qu'on essaie de développer auprès des consommateurs.
Donc c'est précisément ça dont on va parler. Donc vous nous avez parlé de l'entreprise à ses débuts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un petit état des lieux de ce que ça représente en termes de nombre de boutiques physiques, de présence sur le web, personnel, chiffre d'affaires ?
Oui, alors l'entreprise a bien évolué en 40 ans. Initialement, donc, il y avait deux hangars, on peut les appeler comme ça, deux hangars, donc un à Villeurbanne et l'autre à Dijon, Marsannay. Aujourd'hui, on a 115 magasins. 107 en France, 8 en Belgique et plus 1, donc en fait 116 magasins en tout, plus 1 en Allemagne à Stuttgart, 3 sites web même maintenant, un français qui sert donc la France et la Belgique, un allemand qui sert l'Allemagne et l'Autriche et un espagnol aussi également. Et on a un corner, un tout petit corner dans un Corte Inglés en Espagne à Valence.
Et voilà. Les deux hangars d'origine ne sont plus du tout à disposition de la marque?
Si, si. Alors, on a gardé celui de Marsannay, qui est encore un magasin immense, mais voilà, qui existe toujours. Et celui de Villeurbanne, on l'a déménagé il y a quelques années, pour un magasin plus petit.
Si vous avez des images d'archives, je suis très preneuse.
D'accord, volontiers.
Pour habiller le podcast. Et l'activité digitale, vous l'avez développée quand ?
Alors, le site marchand a ouvert en 2015. Il représente aujourd'hui 10% du chiffre d'affaires. Voilà. Et sur l'évolution de l'entreprise aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est 1200 salariés aujourd'hui. Donc, ça devient une grosse PME.
Est-ce que donc vous avez principalement une activité grand public, on est d'accord ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Et vous avez également donc, une petite partie B2B ?
C'est une partie qu'on essaie de développer initialement, qui est plutôt orientée sur la décoration sur mesure. Parce qu'en fait, on a un service de décoration sur mesure dans tous nos magasins. Vous pouvez faire vos rideaux sur mesure, votre nappe sur mesure, un jeté de lit. Voilà. Et ce service est aussi destiné aux pros. Donc ça peut être des décorateurs, des hôteliers, des restaurateurs. Donc on a cette offre en décoration sur mesure et on développe progressivement aussi le B2B sur la vente de tissus auprès de professionnels.
Aujourd'hui, moi je suis particulièrement intéressée par l'évolution de l'offre chez Mondial Tissu. Alors j'ai en tête ces 5 dernières années, mais peut-être que vous allez rectifier ça, vers une économie de service pour le grand public. Vous avez développé donc une activité d'incitation au do-it-yourself, des ateliers de couture, etc. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ce mouvement ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous parler de la démarche et peut-être du cadre global de la politique RSE ?
Oui, alors il y a plusieurs axes dans cette réponse. En fait, les ateliers existaient déjà chez Mondial Tissu depuis 2013. Mais alors à toute petite échelle et avec une thématique imposée, donc on a vraiment voulu élargir ces ateliers-là parce que il y a une véritable conviction en interne sur le fait de proposer des ateliers aux clients parce que c'est une source de recrutement notamment pour aller toucher de nouveaux clients. Quand on avait nos hangars justement en périphérie, on s'adressait surtout à des clientes expérimentées qui n'avaient pas forcément besoin d'accompagnement. Et aujourd'hui, on se rend compte que y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre à la couture, mais n'ont pas forcément les moyens matériels, n'ont pas eu forcément l'apprentissage nécessaire. Et donc, les ateliers, c'est un moyen pour eux de se mettre à la couture plus facilement, apprendre différentes techniques et pouvoir réaliser leur projet. Donc ça, c'est un service qui était déjà préexistant. Qu'on a développé, effectivement, on a revu l'offre et on l'a déployé dans presque tous les magasins. Et parallèlement à ça, effectivement, on a développé toute une offre récemment de services liés à tout ce qui est la consommation responsable, notamment des ateliers recréation spécifiquement. Donc on fait pour le moment à un moment dans l'année et qu'on va développer de façon pérenne, de façon mensuelle dans chaque magasin. Donc ces ateliers recréation, ils s'adressent un peu à un autre public au fait. C'est un public qui ne sait pas forcément, qui ne sait pas vraiment coudre et qui a une petite appréhension de la couture et qui voudrait plutôt orienter la couture sur de la réparation, de la customisation. Donc voilà, c'est un public un petit peu différent qu'on n'a pas encore dans nos magasins et qu'on voudrait aller toucher avec ces ateliers.
Et au départ, l'initiative, même en 2013, elle est venue de la part de l'entreprise ou des consommateurs ? Qui a eu cette idée ?
En fait, on a rencontré surtout un prestataire, enfin, qui était un partenaire à ce moment-là et qui a su nous convaincre de lancer ces ateliers et qu'on a commencé un peu en test de façon expérimentale dans certains magasins. Et voilà. Et ensuite, on a voulu réorienter cette offre-là.
Alors, peut-être un peu plus en pratique, comment est-ce que vous avez conçu et structuré l'activité au départ ? Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment vraiment se déroule un atelier physique, parce que c'est principalement physique.
C'est présentiel, ouais. C'est présentiel en magasin. En fait, il y a déjà une partie de préparation amont. Le client peut s'inscrire soit sur le site web de Mondial Tissu, soit auprès du magasin. L'animateur ou l'animatrice de l'atelier appelle le client ou la cliente pour qualifier son projet, donc savoir voilà, ce qu'il a prévu de faire et pouvoir anticiper l'accompagnement pour ce projet-là, en fonction du niveau de la personne et de la difficulté du projet. Et ensuite, la cliente vient au magasin. Alors, soit elle choisit ses tissus sur place, on lui offre un coupon de 10% pour acheter son matériel pour l'atelier, soit elle l'a déjà à la maison et voilà, elle vient avec son matériel et tout le monde s'installe autour de la table et voilà, ça se passe très bien. Les ateliers comptent jusqu'à 8 clients autour de la table avec une animatrice. Et l'animatrice fait le tour en fait, pour accompagner chaque client dans la réalisation de son projet. On n'est plus sur des thématiques imposées, chaque client vient avec son propre projet pour réaliser ce qu'il souhaite.
Et ce sont des ateliers qui durent combien de temps ?
Alors, on a des ateliers de 2 heures et des ateliers de 3 heures. Voilà, en fonction un petit peu de l'expérimentation en fait, des personnes. En fait, quand on est débutant, on recommande plutôt des ateliers 2 heures parce que 3 heures, ça peut être un petit peu long quand on débute. Et puis 3 heures, c'est plutôt orienté pour des profils expérimentés.
Et donc, les personnes qui animent, est-ce que ce sont des gens que vous avez recrutés qui sont dédiés à cette activité ou bien ce sont des vendeurs en magasin qui ont aussi des compétences en couture ?
Alors, il y a un petit peu des deux. Donc, historiquement, on avait lancé les ateliers avec un partenaire qui animait donc, exclusivement les ateliers. Et au fur et à mesure, avec le développement des ateliers en magasin et aussi le nombre d'ouvertures croissantes de magasins, en fait, on a souhaité avoir aussi des coachs internes. Et pour pouvoir avoir donc cette offre un petit peu hybride, soit donc avec ce prestataire, soit avec de l'interne. Et on a parfois aussi des coachs freelance.
De façon très pratique, les machines, par exemple, sont mises à disposition, le matériel de mercerie, donc les coupons, vous nous avez dit, on peut les emmener ou en acheter.
Tout à fait, voilà. Et les machines sont à disposition sur place. Donc on propose les machines à coudre qui restent en permanence sur la table d'activité en magasin. Et ce qui permet aussi aux clientes de tester des nouvelles machines par rapport à celles qu'elles peuvent avoir à la maison. Donc ça peut être des machines électroniques, par exemple, donc qui ont plein de programmes, et c'est assez magique, au fait. Ceux qui savent faire des boutonnières testeront le côté « j'appuie sur un bouton et ma boutonnière est faite », c'est quand même assez sympa. Et on met aussi à disposition une surjeteuse, par exemple. Donc, quand on n'est pas forcément complètement équipé, ça permet de pouvoir faire certaines pièces grâce à la surjeteuse. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir proposer cette offre-là. Et parfois, on a des clientes qui préfèrent venir avec leur propre machine. Et donc, elles viennent avec.
Ne serait-ce que pour apprendre à s'en servir. Parce que moi, personnellement, oui. J'en ai acheté une sur Le Bon Coin. Et j'ai écopé YouTube et les tutos pour savoir.
Pourtant, c'est toujours évident.
C'est assez basique. Oui. Il ne s'agit pas d'une surjeteuse ni de faire une boutonnière. Comment est-ce que vous avez fait en termes vraiment géographiques, d'occupation d'espace, parce que c'est, la problématique principale quand on se met à coudre, et particulièrement quand on habite une petite surface, c'est qu'il faut soit tout sortir, soit avoir un endroit dédié. Vous, d'après ce que je comprends, quasiment toutes les boutiques proposent
oui,
cette offre.
Tout à fait.
Et donc, vous avez acheté des mètres carrés supplémentaires, vous avez organisé différemment, vraiment concrètement.
On a dédié de la place en magasin, on a fait de la place en magasin, ce qui n'était pas forcément aisé, parce que le réflexe distributeur, c'est évidemment de remplir plein de produits dans le magasin. Et à partir du moment où on enlève des produits, on pense manque à gagner. Donc voilà, ça a été une prise de conscience assez importante en interne de se dire, au fait, le service atelier va nous servir à recruter des nouveaux clients, à fidéliser ces clients et à diversifier aussi la clientèle, créer du trafic en magasin. Donc il y a un vrai intérêt, un vrai levier business derrière, même si le service atelier en lui-même n'est pas forcément un service rentable. En fait. Donc c'est tout ce qui est à côté du service atelier qui est intéressant. Et donc on a fait de la place en magasin. On a plutôt situé l'atelier en fond de magasin pour être quand même plutôt tranquille par rapport au trafic du point de vente. Et situé vers tout ce qui est univers mercerie et équipement d'atelier, donc vers les machines à coudre, les mannequins et tout ce qui peut servir pour équiper son atelier à la maison.
Vous avez devancé ma question concernant le modèle économique. Vous avez parlé de rentabilité. On conçoit qu'effectivement, le temps passé d'une personne dédiée sur des ateliers qui sont probablement pas chers en fait, hein, pour être accessibles et pas forcément une activité qui est très lucrative. Pour autant, j'ai la sensation qu'il y a une offre croissante pour cette activité de do-it-yourself, cet intérêt pour la couture, etc. depuis des années. Comment est-ce que c'est structuré? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent et quels sont aussi les avantages extra-financiers? Vous les avez un petit peu évoqués, mais en termes de réputation, etc.
Alors, clairement, l'aspect service n'est pas rentable. Si simplement on fait la soustraction entre le chiffre d'affaires purement de l'achat atelier et les frais liés à l'animation des ateliers, c'est un service qui est déficitaire. Ce qu'on prend en considération, c'est l'aspect recrutement, trafic, fidélisation des clients, qui est difficile à mesurer concrètement, mais on voit bien, alors c'est plus du ressenti auprès des équipes de vente qui nous disent « Ah ben c'est super, on voit telle cliente a pris une carte d'abonnement, elle revient toutes les semaines, elle est ravie, elle a ramené ses amis. » Voilà. Donc c'est plus à ce niveau-là où
carte on sent que... d'abonnement pour les cours, hein, c'est
oui,
pour c'est les
ça,
ateliers.
Ouais, exactement. Ouais, on a des cartes d'abonnement de 5 ateliers ou 10 ateliers, avec une réduction intéressante.
Qui peuvent s'offrir en plus, j'imagine.
Qui peuvent s'offrir, tout à fait. Et en fait, donc c'est plus au fait... niveau des équipes de vente où on va se rendre compte que les clients reviennent plus régulièrement et évidemment il y a tout ce qui est achat du matériel lié à l'atelier qui entre en ligne de compte dans la rentabilité.
Et est-ce que vous diriez que les clients ont l'impression que ça participe à l'image de Mondial Tissu en faveur de son activité de durable dans son développement? Est-ce qu'on a quand même l'impression que... Parce qu'au départ... Pour tout vous dire, moi j'ai traîné dans vos magasins dès la plus tendre enfance, plutôt du côté de Nice, et c'est vrai que c'était le bonheur, on a envie de tout acheter, ça donne plein d'idées créatives, mais par contre j'avais pas du tout une image particulièrement green de la chaîne de textile, et là j'avais vraiment il y a quelques années été interpellée par cette démarche qui effectivement me semblait à rebours par rapport à la logique de vente tant et plus de matières premières. Mais je ne sais pas si c'est perçu par tout le monde de la même façon.
Alors, pas forcément. Je pense qu'aujourd'hui, les ateliers pour les clientes expérimentées, ce n'est pas forcément une démarche green. Souvent, le premier levier de motivation pour faire de la couture, en fait, c'est se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Faire quelque chose de ses mains, être dans la personnalisation. Et la motivation développement durable apparaît plutôt en cinquième. Et tout ce qui est réparation arrive en septième dans les motivations donc, des couturiers actuels. C'est vrai qu'on a fait un virage assez important avec les ateliers en diversifiant les ateliers pour justement interpeller des profils plus orientés sur le développement durable. Avec les ateliers recréation notamment, supprimer le Black Friday par des Green Days aussi, qui font partie justement d'une prise de conscience que grâce à la couture, on peut avoir une consommation plus responsable. Attention, intrinsèquement, la couture n'est pas forcément plus responsable. On peut toujours tomber dans la surconsommation aussi avec la couture, mais en tout cas, la couture peut être un moyen d'entrer dans une consommation plus durable, notamment avec la réparation, l'upcycling, la customisation également.
Je pense qu'il y a un effet bénéfique collatéral à s'intéresser à la matière, à comment un vêtement est construit, comprendre le nombre d'heures passées finalement pour fabriquer une blouse, une jupe, une chemise et qui du coup rend peut-être, on l'espère, tout relatif l'approche de la bonne affaire qu'on peut avoir dans un magasin de fast fashion.
Oui, alors le fait d'avoir fait soi-même son vêtement, déjà on va savoir comment le réparer. Ça c'est quand même pas mal.
Pareil en connaissance de cause.
C'est plus facile, effectivement. Par ailleurs, le fait de faire la couture, alors techniquement sur l'étape de couture, ça permet de rapatrier, on va dire, l'étape confection en local. Donc c'est déjà quelque part une petite démarche développement durable sur tout ce qui est... bilan carbone, INCO, donc ça permet d'économiser, on va dire, de ce côté-là, et évidemment la dimension sociale qui peut être associée au fait de faire soi-même plutôt que d'aller dans des magasins de fast fashion. Après, les couturières, elles sont, en tout cas les couturières expérimentées, ne sont pas forcément dans cette démarche-là. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il y a un potentiel, en tout cas très important, de personnes qui ont cette prise de conscience, mais qui ne savent pas encore coudre. Donc pour nous, tout l'enjeu, c'est d'aller pouvoir toucher des cibles qui sont sensibles au développement durable, et aussi les jeunes générations qui vont avoir une consommation plus hybride entre j'achète du neuf, mais pas trop, ou je l'achète pour le personnaliser. Et j'achète de l'occasion de la même façon pour le personnaliser et en faire une pièce plus durable, plus sympa. Donc pour nous, il y a ces deux axes-là, vraiment de clientes à aller toucher. Ceux qui sont déjà sensibles au développement durable mais qui n'ont pas encore les moyens d'avoir cette consommation textile différente. Et puis donc les jeunes générations sont plus engagées.
Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière de recruter ou peut-être... je ne sais pas, l'image marque employeur, la façon dont l'équipe peut-être est fidélisée à Mondial Tissu.
Oui, il y a un vrai enjeu hein, là-dessus. Sur la marque employeur, on le voit beaucoup dans les entretiens de recrutement. Beaucoup de personnes demandent « quels sont vos engagements ?» ou « j'ai vu que vous faisiez ça, ça m'a beaucoup plu ». Donc il y a un vrai bénéfice pour l'image de l'enseigne au niveau marque employeur.
Parce que c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de recruter. On parle beaucoup de relocalisation de l'activité, mais il y a une pénurie finalement de savoir-faire et de main-forte.
Oui, complètement.
C'est un signe faible très positif.
Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a des profils. Aujourd'hui, globalement, Mondial Tissu a quand même plus de facilité à recruter qu'il y a quelques années parce que justement, il y a eu toute l'évolution sur l'image, à la fois la modernisation de l'enseigne et aussi toutes les prises de parole RSE qui font qu'aujourd'hui, c'est une enseigne plus désirable qu'elle ne pouvait l'être par le passé.
Et alors ça, c'est intéressant. Comment est-ce que vous le mesurez? Quelle est votre perception des habitudes des consommateurs et de leur rapport à Mondial Tissu? Est-ce que ça s'est rajeuni, par exemple?
Oui, alors effectivement, on a pu mesurer un rajeunissement de la clientèle. On voit que la cliente fidèle alors rajeunit d'un an chaque année. Ce serait super si ça nous arrivait à tous. Voilà. La cliente fidèle rajeunit d'un an chaque année.
C'est difficile de gagner en compétences quand on rajeunit. Donc,
c'est ça. Voilà. Donc, les clientes sont de plus en plus jeunes dans la mesure où justement les ateliers s'adressent à des cibles de plus en plus jeunes. On avait cette clientèle expérimentée qui n'avait pas forcément besoin d'accompagnement en couture et qui va peut-être quand même venir aux ateliers pour le plaisir de partager cette passion de la couture. Et des clients plus jeunes qui se mettent à la couture, soit par prise de conscience du développement durable, soit par découverte, passion. Mais grâce aux ateliers, en tout cas, on a pu rajeunir la clientèle de Mondial Tissu.
Vous avez dit tout à l'heure que l'activité digitale, donc e-commerce, représentait à peu près 10% du chiffre d'affaires. C'est hyper étonnant de voir que malgré la vague Covid, vous avez quand même cet ancrage physique qui est hyper fort. Est-ce que vous savez l'expliquer ?
Alors, il y a un vrai lien entre les clientes et les équipes de vente. Je crois qu'on a tous besoin de ce lien social. Ce qu'on souhaite surtout, c'est que nos magasins ne soient pas juste des lieux de distribution, mais soient des lieux de partage, d'échange, de connivence. Ce qu'on veut dans notre positionnement d'enseigne, c'est être dans l'accompagnement des clients dans la réalisation de leurs projets. Et je pense qu'il y a tout ce lien que les clients valorisent complètement dans le fait de venir en point de vente. Et parfois, c'est étonnant. Alors, ce sont des scènes qu'on voyait avant le Covid. Peut-être qu'on les reverra après, mais parfois, donc, on avait des clientes et des personnes de l'équipe de vente se claquer la bise en arrivant, s'appeler par leur petit nom. Donc, il y a vraiment un phénomène convivialité. On a la chance d'être sur un secteur d'activité plaisir qui fait que l'engouement sur le point de vente est très important. Ouais.
Je suis tout à fait d'accord. Il y a une explosion des cafés, crafting, couture, etc. dans les grandes villes, en tout cas à Paris, pour ce que j'en connais. Et je pense que c'est assez lié à ce besoin de relations humaines directes qui nous a tant manqué ces dernières années. Vous avez quand même développé une partie de l'offre en digital. Aujourd'hui, il y a quelques cours et quelques ateliers qui se font sur le web.
Alors, on a été un petit peu contraints, effectivement, pendant le Covid, de changer nos pratiques, puisque les magasins étaient fermés, en tout cas, pendant la grosse partie du premier confinement. Donc, on s'est adapté. On a mis en place des ateliers en ligne, avec notamment notre partenaire atelier en magasin, qui a été très, très réactif, très disponible. C'est Bobine et Combine, qui est basé à Paris, qui nous accompagne depuis le début et qui a été un véritable soutien pendant toute cette période de Covid. Et donc, grâce à Bobine et Combine, on a pu lancer, animer des ateliers live avec nos clients. Et comme on vient de le dire, en fait, les clients ensuite ont voulu revenir sur le point de vente. Donc ces ateliers n'ont pas perduré, mais on garde quand même le projet de créer une plateforme de streaming pour des ateliers live. Et ce qu'on a mis en place aussi, qui pour le coup est resté, sont des lives sur Instagram avec la blogueuse Anne-Charlotte, dont le blog s'appelle Le Bazar d'Anne-Charlotte, avec qui on travaille depuis pas mal de temps aussi et qui anime de façon très vivante voilà, ces lives une fois par mois et on est ravis.
Comment est-ce que vous avez construit en 2013, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ces dernières années, la stratégie de communication au sujet de l'offre, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que le client ou la cliente potentielle peut aller du débutant en couture qui est un ado ou un post-ado à la personne plus expérimentée. Ils n'utilisent pas du tout les mêmes canaux de communication physiques ou digitaux. Donc comment est-ce que vous avez fait parler de vous ?
Alors on a essayé de faire parler de nous sur les différents canaux possibles, justement en fonction des analyses des différentes cibles qu'on appelle donc les personas. On a notre cliente traditionnelle avec qui on va continuer à communiquer via la presse, donc dans des magazines do it yourself, et aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook. On a une clientèle plus jeune, la clientèle trentenaire, à qui on va s'adresser plutôt via Instagram et aussi les magazines Do It. Alors il y a différents noms et puis on aimerait bien donc toucher les cibles encore plus jeunes. On va lancer bientôt notre compte TikTok, donc incessamment sous peu pour pouvoir s'adresser aussi à cette clientèle-là. Et puis après, on fait des partenariats avec différents types d'influenceurs, donc notamment là avec Robin sur l'upcycling, qui permet aussi de s'adresser à une nouvelle cible.
Et est-ce que vous avez considéré des canaux comme Twitch pour vraiment les lives ou des canaux comme Discord pour le côté un peu plus forum, discussion communautaire, entraide?
Alors on avance étape par étape, on y viendra certainement, mais pour le moment, voilà, le prochain objectif, c'est TikTok. Ouais.
C'est hyper intéressant parce que vous avez mentionné pour la première fois depuis le début de l'enregistrement Robin qui est un homme, et la plupart du temps, sinon les mots, la définition des clients et la définition des clientes, en réalité ça reste quand même hyper genré. Je ne sais pas d'ailleurs si vos cours de couture au collège étaient mixtes, mais j'en doute.
Non, ils n'étaient pas mixtes.
Est-ce qu'on a évolué un peu par rapport à ça? Est-ce que c'est toujours des clientes Mondial Tissu ou est-ce qu'il y a des clients?
Alors, ça reste des clientes à 85%, donc très très majoritairement des clientes. On a quand même un public homme, heureusement. Et en général, ils ont des demandes assez farfelues. C'est ça qui est étonnant. En magasin, ils viennent avec des demandes très techniques. Pour refaire le tapis du billard, par exemple. Ils cherchent de la feutrine pour refaire le tapis du billard. Ou la capote de la voiture, ils cherchent du thermocollant spécial. Voilà. Donc, c'est des demandes un peu techniques.
Chacun s'échappelle quand même, quoi. Ça reste
assez spécifique. Et alors, ce qui est drôle, c'est que la cliente a évolué aussi pas mal en magasin. Là où avant, quand elle voyait un vendeur, elle dit « Ah non, surtout pas, je veux pas qu'il me serve parce qu'il y connaît rien. » Aujourd'hui, elles sont ravies d'avoir des vendeurs et pas que des vendeuses. Et dans nos équipes aussi, au siège, on a aussi, donc je parle pour mon équipe en particulier, des équipes hommes aussi qui cousent et qui sont très impliquées. Ouais.
Est-ce que les clients ont un canal d'activité favori? Par exemple, est-ce que ceux qui réparent ne font que réparer? Est-ce que ceux qui cousent sont que dans la création? Est-ce que l'upcycling, c'est encore autre chose? Ou est-ce qu'il y a une porosité de ces activités quand on se met à coudre, d'après vous?
Alors, c'est vrai que globalement, c'est plutôt segmenté. Après, évidemment, il y a un petit peu de porosité, mais la segmentation, elle se fait plutôt sur la déco ou la mode. Quelqu'un qui coud va plutôt s'orienter soit pour des besoins de décoration, je fais mes rideaux, je fais mes coussins, il va peut-être pas forcément se lancer dans la mode. Et en revanche, quelqu'un qui va faire sa garde-robe ou celle de ses enfants va pas forcément chercher à faire la déco chez elle. Après, sur tout ce qui est upcycling et réparation, je pense qu'on touche vraiment des profils et des segments différents. Qui font qu'en fonction de l'âge, de ses convictions, on va plutôt s'orienter vers une pratique ou l'autre.
Et est-ce que vous avez une notion de la répartition de ces activités et puis finalement de vos cibles en fonction de la géographie, donc les urbains, les moins urbains? Et vu que vous êtes développé aussi à l'international, je suis assez curieuse de savoir si ces mouvements en faveur du do-it-yourself sont également présents ailleurs.
Oui, alors la tendance do it yourself est quand même présente globalement. Alors, je vais parler pour le marché européen. Sur le marché européen, elle est quand même assez présente et c'était le même phénomène de développement qu'en France. Sur l'aspect géographique, nos magasins sont plutôt basés en périphérie des villes, mais on draine quand même du public sur 30-40 km autour de chaque magasin. Donc c'est quand même assez loin, les clients viennent de loin pour venir sur les points de vente. Et on a ouvert notre premier magasin centre-ville à Paris l'année dernière. Donc on est très fiers d'être à Paris. On est intramuros maintenant, on n'a plus besoin de franchir le périph pour trouver Mondial Tissu. Donc on est basé rue du Commerce. Et voilà, c'est un très beau magasin et qui tourne exceptionnellement bien, notamment sur les ateliers. C'est tout le temps complet. Voilà, on en fait beaucoup plus que dans tous les autres magasins.
Jolie adresse. Et est-ce que vous savez du coup si les activités de chacune et chacun sont... est-ce qu'il y a des vraies différences en fait dans les coins vraiment très ruraux et les coins plus urbains?
Alors on ne voit pas forcément de différence. Au fait, après, la différence va plutôt se jouer sur si je me fais une robe, elle va peut-être être différente d'un coin de la France ou plutôt en mode parisien. Mais on va y avoir cette même envie de se faire une petite robe, de faire un doudou pour son enfant ou de customiser un sweat qu'on aura acheté en recyclerie.
Vu que vous avez une expérience chez les marques avant de travailler chez Mondial Tissu, est-ce que, d'après vous, il y aurait un intérêt pour une marque de mode à justement ouvrir un petit peu plus les portes de sa fabrication, montrer un peu plus les coulisses finalement, pourquoi pas des détails sur le patronage, le choix des matières, etc.
Alors oui, on voit comme que les marques au global sont de plus en plus transparentes. Enfin, les clients demandent beaucoup plus de transparence. On parlait de marque employeur précédemment. On sait bien tous que les clients plébiscitent de plus en plus les marques en fonction de leurs engagements, de la transparence, de ce qu'elles peuvent présenter, dire aux clients. Donc oui, je pense que les enseignes vont de plus en plus dans cette direction-là. Et le consommateur a besoin de savoir où est-ce que c'est produit et comment est-ce que c'est fabriqué. Après, il y a pas mal de lois qui sont en cours aussi dans les tuyaux qui vont permettre d'avoir plus d'informations.
Ça ne va pas s'appliquer tout de suite au textile, enfin, je pense particulièrement à l'affichage environnemental, mais est-ce que vous avez peut-être cette volonté de partager ces infos sur des fiches équivalent fiches produits mais fiches tissus? Et est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une évolution dans la demande de vos clients, justement pour une offre plus recyclée, des matières plus certifiées, biologiques, etc.?
Alors, on aimerait bien. On aimerait bien que les clients aillent vers plus de bio, de recyclé. Et on voit qu'il y a un énorme décalage au fait, entre les intentions des clients. On en parlait tout à l'heure, donc à 60% là, qui voudraient aller en faveur du bio, qui souhaitent acheter des tissus bio recyclés. Et dans la pratique, au fait, on a plutôt 4%, même pas, des ventes qui sont faites sur du bio, 1% sur du recyclé. Donc, on continue d'incrémenter nos collections. On a des objectifs qui sont assez conséquents sur le bio. En 2010, on voudrait avoir au global 10% de l'offre recyclée, 15% de recyclée.
En quelle année? Parce que vous avez dit 2010, mais du coup...
En 2025, on voudrait avoir une offre recyclée à 15% et puis en bio 10%. Aujourd'hui, sur les collections mode, parce qu'en fait, il y a vraiment différentes typologies de produits, parce qu'on a de la mercerie, on a des tissus de décoration, d'habillement, l'offre est quand même assez différente. Et aujourd'hui, en habillement, on est déjà à 11% d'offres bio et 2% de recyclé. Mais c'est pas le premier argument en fait d'achat pour les clients. Ils vont d'abord regarder si le tissu leur plaît, si ça rentre dans leur budget. Et alors, si c'est bio, tant mieux. Mais c'est pas le premier acte de recherche. Ouais.
Et ça, vous l'expliquez comment? Est-ce que il y a une offre peut-être esthétique pas qualitative, mais de perception en termes de main, etc., qui est insuffisante dans le bio et dans le recyclé? Est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie différence de prix, ou est-ce que c'est parce que finalement vous n'avez pas assez de fournisseurs pour ça?
Alors, il y a un petit peu tout. Il n'y a pas beaucoup de fournisseurs. Le prix est est vraiment plus élevé. On parle des cours du coton et coton bio en ce moment. Le coton redescend, le coton bio pas trop. Ils sont vraiment partis sur des planètes stratosphériques. Donc, il y a une vraie différence de prix quand même en magasin sur du bio, notamment sur le coton. Ce qui fait que ça peut être un frein vraiment à l'achat pour les clients. Après, sur le recyclé, il n'y a pas forcément de différence. Aujourd'hui, je porte une jupe en polyester recyclé. Et voilà, donc pour moi, c'est un tissu normal, entre guillemets. Il n'y a pas un aspect différent parce que c'est recyclé ou parce que c'est bio. C'est vraiment voilà, une qualité, un tissu comme un autre, en fait.
Et en termes de sourcing pour votre activité, je ne sais pas si vos fournisseurs vous en changez régulièrement ou si ce sont des fournisseurs pérennes, mais est-ce que eux-mêmes, vous avez l'impression, sont dans des questionnements d'adaptation de leur offre ?
Ils le sont obligatoirement, surtout les fournisseurs européens. Après, on essaye forcément d'aller sur des offres qui sont plus respectueuses de l'environnement. Voilà, donc il y a un travail de fond avec les fournisseurs.
C'est étonnant parce que j'ai vraiment un attachement historique à Mondial Tissu du fait de ce que j'en connais depuis que je suis enfant. Et en même temps, j'ai la sensation, pour vous avoir redécouvert lors de l'édition 2020 des Trophées de la mode circulaire,
oui.
Et à l'enregistrement de ce podcast, que vous êtes un peu comme soit une start-up dans une entreprise ou qu'il y a des actions intrapreneuriales qui sont hyper novatrices, qui sont hyper dans l'air du temps. Pourquoi vous êtes allé vous challenger auprès des trophées de la mode circulaire ? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans ce prix que vous avez eu d'ailleurs ?
Oui, merci. Effectivement, dans le mode de fonctionnement de Mondial Tissu, on a bien ce côté start-up. Donc, c'est intrinsèque au fonctionnement de l'entreprise et on a la chance voilà, de pouvoir proposer des projets innovants, parfois un peu remuants, mais qui permettent d'avancer. Et alors, autant la prise de conscience donc du développement de façon durable a été faite un peu avant le Covid, avec tout ce qui était semaine du développement durable, dans lesquelles voilà, on a essayé d'avoir une prise de parole. Pendant le Covid, c'était vraiment une évidence. Et il y a eu ce challenge qui s'est présenté et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion pour nous d'aller présenter des projets, d'aller chercher un accompagnement pour pouvoir les réaliser et chercher une légitimité sur ces projets-là. Donc oui, c'était un gros challenge et qui a permis en interne d'avoir des échanges très structurés, très posés sur ce sur quoi on voulait aller, sur ce qu'on voulait développer. Et ça a permis d'avoir voilà, une espèce d'immense workshop sur plein de sujets et qui ont débouché justement sur les projets que j'ai présentés au Trophée de la mode circulaire et donc qui ont plu, qui ont été validés. Et donc certains ont déjà été mis en route à ce moment-là et on est encore en train de mettre en route certains autres. Donc c'est un vrai cap maintenant qu'on a défini pour l'entreprise.
Vous pouvez les détailler, ces projets ?
Bien sûr. Alors dans ces projets, donc il y a l'offre. On partait de l'offre. Vous parliez tout à l'heure de clients éclairés. L'idée, c'est de pouvoir lui offrir, enfin, à ce client éclairé, une offre bio, recyclée, développement durable en magasin, du Made in France aussi. On travaille avec les labels GOTS et EcoVero. Et donc cette offre-là, l'idée c'est qu'elle se développe et aussi qu'elle soit plus repérable en magasin. Donc ça veut dire qu'on essaie de travailler sur tout ce qui est identification de ces produits-là. Donc le client éclairé qui veut faire lui-même voilà, ses propres créations, il peut avoir accès à cette offre bio. Le deuxième axe, c'est les ateliers, le fait d'apprendre à faire soi-même, d'où le développement aussi des ateliers en magasin. Une question qui avait été posée justement dans le jury, c'était vous avez combien de magasins équipés d'ateliers ? En fait, c'est presque tous les magasins, il n'y en a plus que 12 aujourd'hui qui n'ont pas d'atelier. Donc j'espère qu'en 2023, il n'y en aura peut-être plus que 5, c'est un objectif. Mais voilà, les ateliers font partie intrinsèquement de l'offre de l'ADN Mondial Tissu. On n'ouvre plus un seul magasin sans les ateliers. Donc apprendre à faire soi-même, pour nous c'est un axe fort. Ce qu'on dit justement, c'est faire soi-même, c'est déjà faire beaucoup pour la planète. Et puis au sein de ces ateliers, c'est développer tout ce qui est notion d'upcycling, de customisation, de réparation. On développe de plus en plus de tutos qui sont liés à ces pratiques-là. On intègre également ces notions dans nos shootings photos pour les produits de collection. Et puis le quatrième axe, c'est tout ce qui est vente d'occasion. Donc avec un pan qui est de l'événementiel avec des puces couturières dans certains magasins, donc où les clientes peuvent venir avec leur tissu dormant dans leur placard, la mercerie qu'elles ont en trop, des bouquins de couture, des pelotes de laine ou leurs propres créations. Et elles viennent vendre ça directement sur les parkings des magasins entre couturières. Donc ça, c'est un moment assez festif que les couturières apprécient beaucoup.
Et je précise que vous ne faites pas payer l'emplacement.
Exactement, voilà, c'est gratuit. On met à disposition gratuitement l'espace devant nos magasins. Et toujours dans l'occasion, on souhaite avoir des corners permanents dans les magasins. Donc aujourd'hui, on est en phase de test pour que les clientes puissent venir apporter leur tissu et qu'ils soient revendus sur le point de vente. Donc voilà, on est en train d'affiner ce modèle-là, notamment grâce à l'agence Imaginable qui nous accompagne sur ce projet qu'on a rencontré lors des trophées de la mode circulaire.
Ça, c'est les corners dont vous parlez, c'est le troc au kilo, c'est ça?
Oui, c'est le troc au kilo, ouais, qui va être renommé justement pour ça. Je n'ai pas prononcé le nom.
Ah, pardon.
Pas de problème.
Les infos de façon hyper concrète, tout ce qui est justement c'est les puces, etc. C'est affichage en magasin ou est-ce qu'on peut les retrouver sur le web?
Alors, c'est en magasin. On fait un affichage un mois avant en magasin. On prévient nos clientes qui sont plutôt sensibles sur le sujet. Et puis, alors, en fonction des tarifs de la presse locale, on se permet de faire un petit encart ou pas dans la presse locale, et sinon on diffuse aussi des messages sur les réseaux sociaux.
Très bien. Je précise aussi, je ne crois pas qu'on l'ait évoqué, mais que vous faites aussi de la location de machines en dehors des ateliers pour les gens qui sont autonomes.
Oui, exactement, ça fait partie de la diversification de l'offre atelier. Donc j'ai parlé tout à l'heure donc des ateliers standards un peu basiques et aussi des ateliers événementiels, comme un anniversaire, un enterrement d'une jeune fille ou d'une garçon, pourquoi pas. Ça se fait aussi. Baby shower, donc il y a les ateliers standards, les ateliers événementiels. On est en train de développer de façon pérenne les ateliers recréation, donc avec un rendez-vous mensuel. Et on a aussi cet espace donc, qui, entre les ateliers, n'est pas forcément utilisé. Et on avait envie de mettre à disposition nos machines pour qu'elles ne restent pas mortes, entre guillemets, entre les ateliers et qu'elles puissent servir aux clients. Donc un peu de la même façon qu'on peut le voir dans le bricolage, où on loue du matériel de bricolage pour pas forcément avoir à s'équiper à chaque fois. On part vraiment de ce même principe de location. Nos machines sont à disposition dans le magasin et on peut venir coudre. Et justement, on retrouve aussi l'intérêt de pouvoir coudre sur une machine plus perfectionnée, plus rapide, plus solide, plus robuste, et tester des nouveaux modèles.
Génial. Je suis la première à utiliser les machines à disposition chez Leroy Merlin quand il s'agit de bricoler dans un appartement parisien.
Vous pouvez venir chez nous maintenant.
Comment est-ce que vous financer ces projets? Je ne vous ai pas posé la question d'à qui appartenait l'entreprise, est-ce qu'il y a un fonds derrière? Parce que j'ai l'impression que vous poussez des portes qui sont quand même assez... vous prenez des initiatives assez audacieuses depuis que vous êtes dans l'entreprise, qui ne sont pas forcément toujours rentables, on l'a dit, et les exécutifs sont d'accord.
Complètement.
Dites-nous, la votre secrète, c'est quoi?
Le secret, avoir un DG éclairé, et un actionnaire qui l'est aussi, enfin au moins tout autant, un binôme qui est assez exceptionnel et qui fait une confiance absolue dans les équipes et qui donne carte blanche et qui accompagne vraiment dans les projets. Ils sont eux-mêmes convaincus de la nécessité de pousser tout ce qui est développement durable avec des vraies convictions personnelles. Et aujourd'hui, ils encouragent vraiment toutes les personnes dans l'entreprise à aller dans cette direction-là.
Alors du coup, quels sont vos prochains achievements?
Alors, dans les développements de l'entreprise, on est toujours en développement sur les magasins, donc le nombre de points de vente. On est reparti en expansion depuis 2017 avec une dizaine d'ouvertures en moyenne chaque année. L'objectif, c'est d'arriver à 150 magasins en 2025. Donc, on continue sur notre lancée. On a racheté récemment le réseau belge Mondial Textile, qui s'appelle donc maintenant Mondial Tissu. Et puis, on a des projets d'expansion donc en Espagne, notamment avec un partenaire local qui nous permet d'entrer dans les corners Corte Inglés. Et puis, donc, on vient d'ouvrir notre site web espagnol. Voilà, on espère le développer. Dans les perspectives de développement, on a aussi le marché de l'occasion qui en est embryonnaire pour le moment. On voudrait le développer de façon plus pérenne et plus durable. Aujourd'hui, donc, les puces couturières, ça reste un petit peu anecdotique sur certains magasins. On commence à avoir des rendez-vous deux fois par an sur certains magasins qui sont vraiment pris au jeu, c'est super. Et après, donc, c'est toute l'occasion pérenne dans les points de vente. Ça, c'est un vrai axe de développement.
La question de l'éducation, justement, à la couture, aux matières, etc., dans les écoles, dans les collèges, est-ce que c'est quelque chose que vous avez, enfin, une chose à laquelle vous avez déjà pensé, soit d'un point de vue purement commercial, soit parce que c'est important d'éduquer les plus jeunes?
Oui, alors, sur les deux aspects, effectivement, on y a déjà pensé. On n'a pas encore trouvé la bonne formule pour y aller, mais c'est quelque chose qu'on a en tête. Et dans une étude qu'on a pu faire l'année dernière avec l'Obsoco, on voit qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement de la couture, que ce soit pour les personnes qui commencent, qui ne savent pas forcément comment commencer, ou des personnes qui sont déjà un petit peu expérimentées. Il y a un vrai besoin voilà, d'accompagnement. Et on se dit que oui, on pourrait aller toucher les plus jeunes à la source, dans les écoles.
Et sans distinction de genre, c'est une excellente nouvelle.
Tout à fait.
J'ai deux petites questions pour terminer. La première relative à Lyon. Est-ce que vous avez une chose à conseiller pour cet après-midi, cette journée à visiter par exemple ?
Alors, je crois que ce qui est le plus chouette à Lyon, c'est de se balader sur les quais de Saône et aller voir le Vieux Lyon, manger une petite glace dans le Vieux Lyon.
Ce programme va très bien, surtout par un temps pareil. Et la deuxième, si vous aviez un atelier de couture par lequel commencer à recommander chez Mondial Tissu ?
Alors, sans hésiter, les ateliers recréation, c'est vraiment l'atelier le plus simple pour commencer à toucher du doigt la couture. C'est une occasion de se lancer en faisant de la personnalisation, que ce soit du simple fait d'appliquer un patch sur un sweat, par exemple, ou sur un jean, ou faire une petite broderie pour réparer un accro. Voilà, c'est une très bonne entrée en matière. Après, on a les petites lingettes démaquillantes aussi, c'est très sympa. C'est de la couture droite. Voilà, c'est facile, c'est utile. Et voilà, donc avec ces projets-là, voilà, je pense déjà qu'on peut vite devenir accro, rien qu'avec ça.
Merci beaucoup. Je vous propose qu'on aille faire un petit tour des exposants.
Merci à vous. À bientôt.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.